What is your name?
Me llama Lagrado.
What is your favorite color?
Ma maman m'a dit que je jamais parlé aux inconnus.
Alors, dites-moi tout.
Je voudrais être avec vous.
Vous y êtes?
Pour ce premier numéro, je souhaitais revenir sur la thématique de cette 30e édition du festival Premier Plan, la rétrospective Drôle de famille. Drôle de famille, c'est un thème intéressant, car ambivalent, et ouvre une porte sur l'importance de la famille au cinéma. C'est pourquoi j'ai voulu poser quelques questions aux festivaliers. J'ai ainsi croisé Étienne, Chantal et Marion, à qui j'ai demandé ce que leur évoquait le titre Drôle de famille.
Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque le conflit, ça m'évoque les règlements de compte, ça m'évoque les relations... Père-enfant, mère-enfant.
Drôle de famille que partout, je pense que partout, il y a des familles qui sont un peu particulières, puis que les metteurs en scène essaient de le mettre en valeur.
Alors, ça m'évoque la comédie. J'avoue, je ne connais pas du tout ce que c'est, mais ouais, ça m'évoque la comédie, justement la convivialité, bonheur en famille.
Avant de poursuivre, revenons sur le terme « drôle de famille ». Drôle a deux significations possibles. C'est à la fois ce qui est rigolo, mais désigne aussi le bizarre, ce qui sort de l'ordinaire. Car en effet, la drôle de guerre n'avait pas grand-chose de vraiment drôle. La famille, quant à elle, je ne vous apprends rien, désigne ceux à qui nous nous sentons reliés, que ce soit par le sang ou par le cœur. Et justement, dans le film « Ma vie de courgette », film d'animation de 2014 réalisé par Claude Barras, c'est bien d'une famille de cœur dont il est question. Le jeune garçon, prénommé Courgette, se retrouve à l'orphelinat et se reconstruit petit à petit une nouvelle famille parmi les orphelins. En somme, une famille d'enfants sans famille qui prend vie sous forme de pâte à modeler. La métaphore biblique ou mythologique est à portée de main. Quand Courgette reconstruit sa famille, pour Christiane, héros du film Festen de Thomas Vinterberg sorti en 1998, c'est tout l'inverse. Pour les 60 ans du patriarche Helge, Christiane en profite pour porter un toast et régler ses comptes. Ici, autant dans le texte qu'à l'image, nous assistons à la déconstruction d'une famille. Premier film du Dogme 95, cher à Lars von Trier, Vinterberg filme en lumière et décor naturel de manière sobre, jouant sur le non-dit, le non-vu, et sublimant ainsi la thématique du secret jusque dans l'acte même de la réalisation. La famille se construit et se déconstruit au cinéma. Elle évolue sous nos yeux l'espace d'un instant. Cette évolution, le cinéaste Richard Linklater l'a bien comprise, et a voulu l'exploiter d'une manière inédite au cinéma. Dans son film Boyhood, sorti en 2014, nous suivons la vie de Mason Jr. et de sa famille, de ses 6 ans jusqu'à sa majorité. Nous partageons leurs joies, leurs larmes, leurs réussites et leurs failles. Jusqu'ici, vous me direz que tout cela reste plus ou moins classique. Mais le génie de ce film, outre sa tendresse, son humour et sa sincérité profonde, c'est que Linklater, avide de réalisme, a décidé de conserver les mêmes acteurs. Le tournage a commencé en 2002, lorsqu'Ellar Coltrane, l'interprète de Mason, avait lui-même 6 ans, comme son personnage. Linklater a tourné avec ses acteurs chaque été, jusqu'en 2014, ouvrant alors une faille temporelle qui condense 12 ans de vie en seulement 3 heures. Les personnages vieillissant sous nos yeux, sans maquillage ou effet numérique, dans une fresque familiale, émouvante, honnête et simple. Mais nous l'avons déjà vu, la famille n'est jamais vraiment simple, et parfois même, comme dans Festen, elle peut être rongée par les secrets et les non-dits. Continuons alors ce florilège avec Monsieur Pedro Almodovar, et plus particulièrement par son film sorti en 1999, Tout sur ma mère. Dans ce film, la famille est transcendée par son absence, sa déchirure. Manuela, mère célibataire, assiste impuissante à la mort de son fils Esteban, âgé de seulement 17 ans, renversé par une voiture. Manuela prend alors la décision, pour honorer une promesse, de retrouver le père qui avait fui le foyer. Almodovar profite de cette histoire de famille pour nous dépeindre le milieu underground de l'Espagne des années 90, marqué par l'ombre menaçante du sida. Almodovar nous parle aussi et surtout des femmes. Qu'elles soient mères, prostituées, religieuses, transgenres, jeunes, vieilles, unies, divisées, amies, amantes, elles restent femmes, humaines, sensibles et aussi normales que vous et moi. Pour finir, je ne peux pas ne pas mentionner le film « Jusqu'à la garde ». Film en compétition dans les longs-métrages français, film de Xavier Legrand et surtout film qui n'est autre que la suite du court-métrage « Avant que de tout perdre » qui avait déjà beaucoup fait parler de lui à premier plan. Mais pas seulement, puisqu'il avait été nommé aux Oscars en 2014. Jusqu'à la garde, c'est l'histoire d'un couple qui divorce. C'est l'histoire d'un père violent, d'une femme forte, d'enfants terrorisés, et c'est surtout une histoire de courage, de force et de rapport de force. Xavier Legrand veut parler de la peur qui peut naître au sein d'une famille, du déchirement que cela procure et qui se transmet aux enfants. Les parents, magistralement incarnés par Léa Drucker et Denis Ménochet, illustrent la lutte entre les liens du sang et les liens du cœur. Peut-on renier ceux à qui nous sommes liés? J'ai profité de la rétrospective du cinéaste Serge Bozon pour lui poser une question. Lui qui écrit tous ses films avec Axel Roper, la mère de ses enfants, lui dont la chef opératrice se trouve être sa sœur, Cécile Bozon, lui qui aime tourner et retourner avec des acteurs récurrents, quel est l'avantage de faire du cinéma en famille?
Dans le cinéma,
comme dans tous les endroits, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de rapports de force, souvent, des tensions, si vous voulez, des querelles d'ego, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une grosse hiérarchie au cinéma, quand on est un acteur de célèbre hein, ou le réalisateur. Et donc, quand on tourne avec des gens de la famille, par exemple, ça enlève déjà cette question de la hiérarchie et de... Ça ne veut pas dire que tout est rose dans une famille, que tout le monde s'adore, mais quand même, comme les gens se connaissent, on n'est pas dans ce genre de rapport. Il n'y a pas à vouloir montrer des trucs de pouvoir, etc. Et en plus, c'est toujours pareil, quand on est avec des gens de famille, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. Donc il y a un travail sur le long terme. Donc les gens savent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc ça fait gagner beaucoup de temps, si vous voulez. C'est pas comme si je devais rencontrer un chef-op en me disant, voilà, moi j'aime tel film, j'aime tel film, ah, pourquoi, etc. Quand on parle depuis 20 ans avec quelqu'un, voilà, ça permet, c'est toujours pareil, d'approfondir, si vous voulez, d'aller plus vite. Et avec, en plus, quelque chose qui casse... le côté grosse production où il y a ces espèces de tensions qui sont assez désagréables sur les tournages, c'est un tournage familial comme on dit par définition, même quand on dit qu'un tournage est familial, c'est pas forcément que c'est gens de famille, mais c'est une autre atmosphère qui moi je trouve plus agréable, c'est en gros je dirais essentiellement pour ça.
J'ai ensuite rencontré Manu Flétou, réalisatrice du court-métrage Lâchez les chiens, qui m'a parlé des liens familiaux dans son court-métrage.
Quand on parle de la famille en général, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de conflits, et c'est tant mieux parce que bah, c'est bien d'avoir des conflits dans des films. Voilà. Dans mon film, donc Lâchez les chiens, j'ai posé une cage, une arène et une meute. Donc on a trois types d'animaux. On a un molosse qui est donc l'amoureux. On a un jeune chien fou qui est donc le jeune frère dont la jeune femme a la tutelle. Et cette jeune femme est encore un autre type d'animal qui est plus indéfini. Les rapports de force, il y en a beaucoup dans ce monde. Personnellement, j'en ai expérimenté toutes les variations colorées. Peut-être pas toutes, mais enfin beaucoup de variations colorées. Et dans ce film, il y avait plusieurs thématiques qui m'intéressaient d'aborder. L'idée de l'union qui fait la force, d'une part, mais aussi l'idée d'une... Donc on a un personnage principal féminin qui se trouve tiraillé entre deux violences, deux amours, donc celle de son homme, le molosse irlandais, et celle de son jeune frère dont elle a la tutelle, le jeune chien fou. Et elle, là-dedans, pour moi, il était important aussi qu'elle s'affirme dans ses rapports de domination, parce qu'on a donc les deux mâles qui sont complètement incompatibles, et qu'elle encaisse ça depuis des années, et elle est super sympa. Hein. Elle encaisse, et au bout d'un moment, il fallait qu'elle morde. Et ça m'intéressait de cristalliser ça dans ce film-là. C'est le moment où une femme, en fait, face à deux mâles incompatibles, au bout d'un moment, eux, ils aboient, elle mord.
Si le cinéma s'amuse à construire et déconstruire la famille avec humour ou sur un ton grave et sérieux, avec réalisme ou de manière fantasmée, décalée, c'est avant tout parce que la famille est au cœur de nos vies, aussi bien chez nous que chez cette espèce particulière que sont les cinéastes. Que ce soit par les liens du sang ou ceux du cœur, la famille forge qui nous sommes et ce que nous sommes. Jusqu'où pouvons-nous aller pour notre famille ? Il est évident que le cinéma s'intéresse, s'interroge et nous interroge sur ces rouages complexes qui viennent activer le mécanisme étrange qui nous anime et nous construit, ou même nous déconstruit. Prétexte ou au cœur de l'histoire, la famille permet d'humaniser un personnage, un lieu, une époque. On peut donc affirmer que ce soit à travers les yeux d'Almodovar, de Bozon ou encore de Linklater, le cinéma est et restera une drôle de famille.